Aujourd'hui, dans les studios de Radio Primitive, je reçois à nouveau, pour parler avec lui de son nouveau roman, Philippe Cuisset. Bonjour Philippe.
Bonjour Émilie.
Alors, Le silence des salines est publié chez Enfortas. Je ne sais si on prononce le S.
Ouais, ouais, ouais.
Enfortas. Et il nous emmène au cœur d'Aigues Mortes et on va voir la suite un peu plus tard. Donc, nouvel ouvrage. Donc, 2 ans après, il y a une jolie fleur non loin de Tirana, un ouvrage pour lequel on t'avait déjà invité. Et le thème principal de ce nouveau livre, Le silence des salines et le massacre des Italiens à Aigues Mortes le 17 août 1893. Donc, première question, avant de plonger plus loin dans le récit, comment t'es venue cette idée, cette envie de nous replonger dans cette histoire collective de déni? Je pense que c'est le bon mot.
Oui.
Et peut-être peux-tu nous parler de ce pogrom terriblement absent des livres d'histoire, du moins d'un point de vue scolaire, dans ce qui est facilement accessible au commun des mortels pendant notre fabrication d'adultes?
Oui, je ne sais plus exactement comment je suis tombé sur ce fait historique qui est relativement méconnu, en tout cas du grand public, des manuels scolaires, etc. J'ai au départ écrit un livre que j'avais laissé de côté et que j'ai totalement modifié à cause de cette trouvaille, si j'ose dire, qui me semblait qu'on devait, je pense, exhumer et révéler, même si je ne suis pas du tout celui qui le révèle. Il a été révélé par plusieurs historiens, en particulier les travaux de Gérard Noiriel, qui est l'un des grands historiens de l'histoire de l'émigration. Et donc j'ai essayé de l'intégrer dans un roman qui était au départ un roman contemporain qui portait sur la xénophobie, mais qui a été totalement transformé par la mise en place de ce dialogue historique entre 1893 et une époque contemporaine. Voilà.
Est-ce que tu peux revenir un peu sur les faits historiques, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout cette histoire? Je t'avoue que moi, je suis alors allé chercher, aussi bien du côté de Wikipédia que de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui propose également des travaux en ligne, mais je n'en avais jamais entendu parler.
Ouais. Ouais, je vais essayer d'être concis, parce que c'est en 2 jours, il s'est passé énormément de choses. Donc ça se passe en 1893, à Aigues Mortes, on est au mois d'août, c'est la récolte du sel par la compagnie des Salins du Midi. Et chaque année, depuis des décennies, même des siècles, hein, puisque ça existe depuis longtemps, des ouvriers saisonniers viennent d'ailleurs pour travailler. Il y a les Ardéchois, il y a des Cévenols, il y a des Trimards, donc tous ceux que la Troisième République a mis à la rue par la misère sociale. Et il y a aussi donc des Italiens qui viennent du Piémont et qui sont d'excellents travailleurs, qui sont bien acceptés par la population. Et suite à une altercation entre une équipe qui est composée pour partie de trimards, donc de vagabonds, une population qui est assez instable, qui a du mal à travailler, à suivre le rythme, puisque les quotas ont été augmentés. C'est vraiment un travail de bagnard. Il y a une altercation avec les Italiens. Un des Italiens se dispute et va plonger sa chemise pleine de sueur dans le tonneau d'eau potable des trimards. Et s'ensuit une bagarre. Il faut savoir qu'ils sont à 8 km d'Aigues Mortes, qu'ils manquent d'eau, en plein mois d'août, c'est la canicule. Et donc il y a une bagarre, la police intervient, mais les trimards vont aller colporter, l'un d'eux en particulier, à Aigues Mortes, dans Aigues Mortes, que des Italiens sont en train de tuer des Français. À partir de ça, ça monte en épingle et la population se ligue contre les Italiens, même ceux qui sont dans Aigues Mortes, et on commence à les massacrer. Et c'est le lendemain, au moment où on veut les rapatrier vers la gare, qu'une colonne de 500, 600 peut-être Aigues Mortais, qui sont armés de fourches, de bâtons, de fusils de chasse, vont commencer cette chasse à l'homme collective qui va être un véritable massacre. Voilà. Il y aura une dizaine de morts, je crois 9 morts, un disparu, et de nombreux blessés. Et donc, voilà, à la suite de ça, il y aura un procès quelques mois après, et tous les Français vont être innocentés, même ceux qui ont avoué. Donc le procès est politique. Le jury est influencé par le nationalisme et donc c'est un véritable scandale judiciaire qui laissera des traces en Italie jusqu'à un certain Mussolini, puisque paradoxalement Mussolini, vraiment outré par cette xénophobie française, dira: quand j'envahirai la France, je raserai Aigues Mortes. Voilà. Bon.
Bon, on peut compter sur l'extrême droite pour récupérer tout ce qui est récupérable.
Oui, bien sûr. Bah, déjà, d'ailleurs, si on parle d'extrême droite, à l'époque, un qui va s'en donner à cœur joie, qui va être, ça va lui servir, si j'ose dire, d'échauffement avant l'affaire Dreyfus, qui va éclater véritablement avec l'article de Zola de 1898, donc quelques années seulement après, c'est Maurice Barrès, qui va déjà, de sa belle plume, dire que les Italiens n'ont rien à faire ici, que c'est de la crapule, et qu'il faut surtout pas condamner des Français pour avoir voulu simplement défendre les leurs, voilà. Alors que c'est un massacre.
D'ailleurs, tu en parles dans le livre, tu rappelles que, imaginez que cette immigration de travail italienne ait été très bien acceptée tout de suite, fait partie de fantasmes historiques.
Vraiment les Piémontais sont bien intégrés, c'est ça. C'est vraiment la presse qui va se déchaîner, les politiques, et c'est une haine qui est totalement construite. Alors ce qui est assez effrayant, c'est de voir que dans Aigues-Mortes, des gens qui a priori n'ont rien contre ces Italiens vont basculer dans cette violence, vont être retournés justement par un discours nationaliste qui va fonctionner. C'est cette haine-là qui va mettre les gens dehors, qui va les inciter à s'armer, alors que la cohabitation se passe plutôt bien. Alors il y a un facteur pour expliquer tout de même cette haine naissante, c'est que la période de la récolte du sel, la population d'Aigues-Mortes double pratiquement avec l'arrivée des saisonniers, des trimards. Les trimards sont plutôt une population qui est instable, des gens qui sont à la rue, qui peuvent être violents, donc ça crée un sentiment de dangerosité dans la ville, et qui vient aussi du fait que la population d'Aigues-Mortes s'est plutôt embourgeoisée grâce à la vigne, puisque le phylloxéra ayant ravagé les vignobles du Bordelais, eux, la vigne est protégée par le sel, et donc ils se sont un peu enrichis. Donc ils ont peur de cette pauvreté, ils ont peur, il y a un climat on sent une menace, voilà. Et donc ça va se focaliser sur les Piémontais, qui sont pourtant des gens plutôt pacifiques, qui viennent là pour gagner de l'argent, ils ont besoin de ce salaire saisonnier pour retourner chez eux, et qui ne posent pas de problème. Mais c'est eux qui vont servir de bouc émissaire ce sentiment de menace. Voilà. Exactement comme aujourd'hui, on va chercher des boucs émissaires parmi les plus faibles ou les plus fragiles ou les moins nombreux. C'est la définition du bouc émissaire.
Avec toujours des médias plus enragés que d'autres pour faire monter la sauce.
Voilà, le rôle des médias à l'époque est fondamental. C'est eux qui vont faire pression sur le jury, c'est cette presse nationaliste, c'est aussi les politiques qui vont faire pression pour qu'on ne condamne personne. Même ceux, il y a 16 accusés dans le box qui ont été, suite à une instruction qui a été bien menée par un juge d'instruction, et les 16 accusés vont être innocentés, même ceux qui ont avoué. Voilà, c'est vraiment scandaleux, c'est incroyable, mais c'est scandaleux.
Avant de parler du personnage principal, de l'intrigue du roman, est-ce que tu veux bien nous lire un extrait du livre ?
Oui.
Donc une correspondance imaginaire ?
C'est une correspondance imaginaire, oui, j'ai imaginé, je fais parler plusieurs personnages, donc il y a des personnages historiques à qui je donne la parole, et puis il y a un personnage imaginaire qui est donc l'une des descendantes d'une des victimes de ce massacre des Italiens. Donc ça, elle écrit à Florence en août 2024. J'ai lu dans une revue d'histoire que l'État français avait versé à l'époque une somme plutôt coquette. Pour le ministre des Affaires étrangères, Léon Bourgeois, celui qui avait œuvré pour que le procès soit réduit à une bagarre d'Italiens, cela devait être une façon de réconcilier les deux pays. Une collecte solidaire, initiée en Italie, avait réuni la somme de 260 000 lires. Au total, l'État disposait de 740 000 lires. L'article était très précis et documenté. L'auteur ajoutait que seul un tiers de cette somme allait être reversé aux familles des victimes. J'ignore encore ce qu'a touché la veuve d'Amadio. J'aimerais connaître le montant exact de cette somme, savoir qui l'a fixée et selon quels critères. Le prix d'une vie peut-il fluctuer ? Comme celui de la tonne de sel ou du baril de pétrole. Mon arrière-grand-père est le fils d'Amadio Caponi, une des victimes du massacre de 1893. Amadio vient de San Miniato, petite bourgade de la province de Pise. Le corps de mon aïeul n'est pas enseveli dans le cimetière qui longe le canal du Rhône. Son décès survient quelques jours après les émeutes. Il est grièvement blessé. sous bonne garde et malgré une pluie de pierres, on l'embarque dans le train avec tous les Italiens expulsés. Son état s'aggrave et nécessite des soins urgents. Il ne pourra jamais rentrer vivant chez lui. Il descend à Imperia, on l'emmène à l'hospice, il y meurt 3 jours plus tard. Je dois me rendre à San Miniato. Une plaque a été posée sur le mur de la mairie, je l'ai aperçue en photo dans le journal, mais je tiens à la voir de mes propres yeux. Elle dit qu'Amadio fut la vittima innocente della violenza xenofoba. J'étudie l'archéologie et l'histoire de l'art à l'université de Florence. J'aime la vie, le vin, les voyages. J'ai 24 ans, je m'appelle Francesca della Rosa.
Alors, ce récit, cette lettre place le récit à l'époque contemporaine. Et d'ailleurs, ton personnage principal ne vit pas en 1893, mais actuellement, en ce moment, il s'agit de Florian.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait le choix de faire discuter passé et présent et pourquoi il y a le parcours individuel de Florian qui rencontre l'histoire collective ?
Alors, d'abord, sur le dialogue entre passé et présent, il me semble que l'époque contemporaine justifie assez qu'on se penche sur le passé. L'extrême droite, aujourd'hui, sans pousser des ailes, on voit bien ce qui se dit, ce qui se fait ici ou là. On ne va pas énumérer tous les faits des crapules néo-nazis ou des politiques qui se compromettent avec cette idéologie.
Et là, on a une version très mondialisée, en plus,
voilà,
de l'extrême droite.
Voilà. Qu'on aille, là, la mondialisation fonctionne à plein tube, si on peut dire. Voilà. Donc, rappeler l'histoire et voir qu'aujourd'hui, c'est une question d'actualité, cette recherche du bouc émissaire. Donc, ce sont les Piémontais qui, en 1893, qui vont en être victimes. Aujourd'hui, on trouve d'autres boucs émissaires. Ça peut être ceux qu'on appelle les migrants, par exemple, voilà, qui font noircir des pages et des pages. J'entendais récemment que 82% des crimes et délits qui sont relayés par la presse sont des crimes qui ont été commis par des étrangers. C'est-à-dire que la presse choisit de parler des crimes lorsque ce sont des étrangers. Lorsque ce sont des Français qui tuent, ça l'intéresse moins. C'est moins effrayant, c'est moins sexy, pour reprendre un terme journalistique assez discutable. Voilà, donc mettre en parallèle par rapport à une actualité qui me semble brûlante. Voilà. Et pour Florian, le personnage de Florian, donc c'est un personnage qui a voulu exhumer cette histoire, qui en avait un projet de thèse, et qui a dû l'abandonner parce que, manifestement, il est mal dirigé, ou l'université ne s'intéresse pas tellement à ces pages un peu oubliées. Donc là, c'est aussi pour rendre hommage aux historiens qui ont fait ce travail, que ce soit Gérard Noiriel ou d'autres universitaires italiens aussi, qui travaillent pour justement qu'on sorte un peu ces pages oubliées de l'histoire, qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la peur, de la haine et les intérêts qui sont sous-jacents et qui sont parfois invisibles. Voilà.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, là tu nous parles du travail des historiens, mais au centre du roman, donc en tout cas très présent, il y a le massacre des Italiens et le déni de justice qui a suivi, l'acquittement des assassins, tu viens de nous le dire. Mais il est question aussi, sans trop spoiler l'histoire, de l'attitude de certains universitaires aujourd'hui, en tout cas... C'est imaginé dans le récit, de leur désinvolture, je ne sais pas si le terme est approprié, de leur agacement face à une pseudo-culture woke. Dans le livre, il reproche à Florian, avec des mots choisis et quelque peu vides de sens dans une soirée que tu décris, de réinterroger cette construction d'innocence nationale. Tout ça, ça s'appuie sur des faits réels, une posture actuelle par rapport à certains historiens ou universitaires. Alors, bien sûr, pas ceux qui ont travaillé sur le sujet, mais...
Je ne me suis pas documenté sur quelle est la position de l'université par rapport à la révélation de l'histoire et la dénonciation de faits qui relèvent de xénophobie. Mais je sais que les universitaires ne valent pas mieux que les boulangers, les journalistes, les politiques ou n'importe quel citoyen lambda. Il y a des travaux qui ont été menés par des universitaires pour contrecarrer la thèse qui circule circulait, qui dominait à un moment donné, selon laquelle c'était le peuple, le bas peuple, Lumpen, qui avait mis au pouvoir Adolf Hitler. Ce qui est faux. On sait que tous les intellectuels, il n'y a pas que Heidegger, le célèbre philosophe, il y a beaucoup d'universitaires qui n'ont pas démissionné, qui ont soutenu le nazisme. Et donc, cette façon un petit peu méprisante de dire c'est à cause des ignorants et du peuple que l'extrême droite et les idéologies extrémistes peuvent dominer, c'est faux. Elles sont soutenues aussi par des universitaires, par des gens diplômés, par des gens cultivés, des gens qui a priori auraient les moyens d'avoir plus de liberté de penser, de libre arbitre. Mais non, en fait, voilà. C'est ce que j'ai voulu démontrer à travers ce portrait de deux universitaires qui sont, j'espère, qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de l'université de française, sinon je vais me faire des ennemis, mais peu importe. Voilà. Mais je pense qu'ils existent, voilà. Bah, je le sais.
Alors, dans la quête de Florian, une quête pourquoi d'ailleurs, je pense à définir, ouais. Il est question également d'amour, ouais. De relations... En tout cas, entre lui et une jeune Camarguaise. Il est question de boxe, beaucoup ouais. aussi. Pourquoi avoir aussi choisi de le faire partir à cheval parmi la Camargue ou boxer, avec d'ailleurs des questions sur tout ce qui est transfuge de classe. Et il y a aussi ouais. Tous ces questionnements-là.
Ouais. Oui, donc j'ai du mal peut-être à... présenter le personnage de Florian, parce que
tout raconter, c'est difficile.
Ouais. En réalité, c'est un personnage qui me dérange, voilà, qui ressemble pas du tout, qui s'est imposé comme un héros, plutôt un anti-héros du roman, parce que contrairement aux autres personnages de mes romans précédents, qui ont une certaine valeur peut-être d'exemplarité, lui, il va tout de même échouer sur toute la ligne, quoi. Au départ, c'est un échec. Il retourne dans sa ville natale après l'abandon de ses études. Il va s'humilier en trouvant des petits boulots qui sont pas très reluisants. Il va avoir la chance de vivre une histoire d'amour avec une jeune femme qui est douée pour la vie, qui va lui faire découvrir l'équitation, le cheval, lui donner le goût de la nature, de la liberté, de certaines vibrations. Il va trouver des amis d'enfance avec qui il va se plonger avec frénésie dans la boxe. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est compliqué pour lui, puisque ce sport est assez paradoxal, puisque c'est un moyen de briller, voilà, d'être une sorte de gladiateur, d'être au combat, et en même temps de se faire mal. Donc c'est un personnage, j'ai vraiment du mal à le cerner, je ne sais pas, je m'en remets au lecteur, aux lectrices. Pour,
non, mais tout à fait, il y a des moments où on peut être aussi agacé, parce qu'il peut pratiquer le mépris de classe sans oui. forcément comprendre qu'il fait, ou avec un effet rebond. Enfin,
ouais.
C'est,
ouais. Il est manifestement très marqué par ce qu'il a étudié. Donc, il est d'origine italienne. Il s'appelle Florian Rossi. Il est très marqué par ces événements, au point où il s'est tellement plongé que le mal, n'importe quelle forme de mal, le hante et le rend malade, vraiment au sens le plus fort du terme, que ce soit la mort d'un oiseau, d'un crapaud, que ce soit un fait divers raciste contemporain. Il va être dépassé par ce qu'il habite, au point de frôler quelque chose qui ressemble à une forme de folie, quoi. Voilà.
Est-ce que ce roman traite de la mémoire collective, d'une tentative de réconciliation avec le passé, ou plutôt d'une impossible rédemption et d'une demande de pardon qui finalement n'a jamais été formulée?
Cette demande de pardon qui n'a jamais été formulée, bon, il y a des tentatives de réconciliation maintenant entre la mairie d'Aigues-Mortes et des villages des victimes. Il y a, voilà, le travail de résilience est mené petit à petit. Il y a je pense qu'il y a des gens à Aigues-Mortes qui sont soucieux de dire toute la vérité, puisque pour l'instant, tant que je sache, il n'y a qu'une plaque à Aigues-Mortes qui rappelle ce massacre, mais qui glorifie les quelques Aigues-Mortais qui ont sauvé des Italiens. en particulier la boulangère qui s'appelle Adélaïde Fontaine, qui a donc, ils se sont barricadés dans la boulangerie, et puis l'abbé Mauger, qui a essayé de freiner la violence de ses contemporains, voilà.
La bonne conscience de tous les autres.
Voilà, donc on glorifie les justes, hein, comme on le fait actuellement avec ceux qui ont caché des juifs, et on oublie, voilà, bah, qu'il y a eu, voilà, il faudrait que le nom des victimes soit aussi mentionné dans Egmont, ce qui n'est pas encore le cas, ça viendra peut-être, voilà. Donc oui, une mémoire qui doit faire son travail et qui doit nous servir de petits panneaux indicateurs, de petits panneaux d'alerte par rapport à ce qui se passe et ce qui pourra se passer demain.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la couverture du livre que l'on doit à Léa Gariglietti? Est-ce que je dis bien son prénom?
Gariglietti.
Ah bah je suis désolée.
Voilà. Non, non, mais...
elle va me taper. Et avec qui tu avais déjà travaillé sur le fil de l'exil, avec qui tu fais de la musique aussi et
oui.
Moult activités culturelle ou militante?
Oui. Donc, oui, Léa, qui a quand même des talents d'illustratrice, puisqu'elle avait illustré le livre Sur le fil de l'exil qu'on avait composé avec Thomas Junior, un réfugié d'Angola, angolais. Et comme elle dessine bien, et en plus qu'elle connaît les chevaux, et qu'elle pratique l'équitation, et qu'elle avait lu le manuscrit avant qu'il ne soit publié, elle connaissait l'histoire, je lui ai donné carte blanche pour composer une couverture qui donne un petit peu l'ambiance de cette page sombre, et de ce héros qui apparaît sur la couverture, donc sans visage, il tourne le dos au lecteur, et on voit en toile de fond les remparts de la ville d'Egmort sous un ciel nocturne. Voilà, je la trouve très belle. Voilà.
Nouveau livre, nouvel éditeur.
Oui.
Peux-tu nous présenter la maison d'édition?
Oui. Bon, Forta, c'est une maison d'édition indépendante. Voilà. Donc, quand j'ai reçu le coup de téléphone de Franck Sénager, qui est le fondateur et le directeur de cette maison d'édition, qui était intéressé par ce roman, on a pu discuter un peu et j'ai appris qu'il était d'origine italienne, que l'un de ses aïeux Berneri, enfin, c'est un philosophe italien assez connu, qui s'est engagé dans la guerre d'Espagne et qui est mort en Espagne en 36 ou en 37, je ne sais plus, assassiné par les staliniens, voilà, philosophe anarchiste. Donc ça crée des sympathies forcément. Et voilà, on a pu retravailler sur ce texte-là ensemble. Et voilà, donc je suis ravi d'avoir un nouvel éditeur pour ce texte.
Est-ce qu'il y a des rendez-vous autour de ce... Alors, il y en a déjà eu, mais est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous à venir autour de ce livre?
Oui, alors, un rendez-vous qui est de toute urgence et qui ne me concerne pas spécialement, mais enfin, j'y serai, c'est il y a une manifestation samedi 22 contre le racisme et le fascisme, donc qui démarrera de la Porte Mars à 15h30. Et voilà, ça c'est par rapport au sujet de la xénophobie, pour remettre les choses dans l'actualité. Ensuite, je ferai la présentation de ce roman le vendredi 28 à Reims, à la librairie La Belle Image, à 19h. Et la semaine suivante, le vendredi 4, je serai à Laon, à la librairie anarchiste L'Étoile Noire. Voilà. Donc là, ce sera vers 19h30 ou 20h, je ne sais plus.
Alors, sur quel récit lumineux et plein d'espoir, comme tu en as le secret? J'ai essayé de ne faire aucune remarque avant. Es-tu en train de travailler à présent? Et d'ailleurs, en fait, plus sérieusement, en refermant ce livre, je me demandais si tu étais résigné devant la noirceur de l'être humain, ou si, au contraire, aussi sombre que soient les romans que tu proposes aux lecteurs et aux lectrices, ben, tes romans démontraient plutôt une résilience et une envie d'altérité qui était finalement optimiste et grandissante.
Ben, je voudrais que ce soit ça, mais après j'espère voilà, que ce soit, que ce soit tout le contraire. Il n'y a rien de pire que la résignation, c'est la résignation, c'est l'indifférence qui finit par mettre au pouvoir les crapules qu'on laisse se profiler ici ou là, qui se répandent partout. Donc non, pas de résignation, voilà, faut, faut se battre.
Et d'autres projets à venir?
Oui. Alors, je ne vais pas parler d'un projet. Je suis sur le point de terminer un roman qui se passera au Kurdistan. Je ne vais pas parler de celui-ci, puisqu'on a, on a un autre projet qui est sur le point d'aboutir, enfin, qui est en voie d'aboutissement. C'est la traduction d'un texte d'un réfugié qui vient de Turquie, qui a passé 34 ans en prison. Et on s'est mis à quatre, donc avec deux amis, Sibel et Vin, qui sont kurdes, et qui nous ont permis de traduire ce témoignage, où il a été arrêté en 1980, après la dictature. Et il a passé quatre années dans une des pires prisons de l'époque, qui c'était la prison de Diyarbakir. Il a été torturé par le pouvoir turc. Et voilà, c'est un témoignage qui nous a demandé beaucoup de travail, puisqu'il a écrit ce livre en prison, clandestinement. Il a réussi à faire sortir les pages petit à petit par des amis qui étaient libérés. Le manuscrit a été récupéré, retapé, et donc on l'a traduit. Et on espère vraiment trouver prochainement un éditeur pour le témoignage de ce monsieur qui s'appelle Mehmet Dag, et qui est un personnage assez extraordinaire par ce qu'il a vécu, puisque après sa libération, il est reparti au combat. Il a été à nouveau arrêté en 91 et il s'est cette fois-ci condamné à 30 ans de prison. Là, il a obtenu l'asile, il est en France et il est toujours... Alors lui, la résignation, il ne connaît pas, puisqu'il est au combat tous les jours, sur le plan politique, je veux dire.
Pour se dire au revoir, comme à l'habitude, on va se quitter avec un morceau. Tu me l'as envoyé par avance. Nous partons en 1948.
Ouais.
Est-ce que tu peux
pitcher? Je dois parler un petit peu parce que c'est un morceau d'accordéon. Donc c'est le morceau de Joseph Colombo qui s'intitule Maîtrise. J'ai choisi l'accordéon d'abord parce que j'ai été bercé dans mon enfance par l'accordéon. Mon père était accordéoniste. Et c'est probablement les premiers airs de musique que j'ai entendus. C'était de l'accordéon musette. Et voilà, c'est une façon de rendre hommage au métissage musical, puisque les Italiens qui sont arrivés à l'entre-deux-guerres ou après-guerre, beaucoup d'Italiens ont amené avec leur instrument, l'accordéon, ont amené un style musical, une virtuosité. Et donc de nombreux grands accordéonistes, il n'y a pas que Joseph Colombo, il y a Marcel Azzola, Joey Rossi, Tony Murena, et bien d'autres, qui sont Émile Carrara. Et tous ces musiciens ont enrichi la musique française. Ils ont accompagné des chanteurs comme Brel, Barbara. Ils ont joué avec un autre Italien, de père d'origine, Stéphane Grappelli. Voilà, ils ont apporté cette musique que je trouve remarquable.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci, Émilie.
Et donc, on peut te retrouver à La Belle Image et puis allant à
l'Étoile Noire. Voilà. Thank you.